Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme. Aujourd'hui, une interview de Leïla Alchami, autrice de Burning Country avec Robin Yassine Kassab, sous-titrée Au cœur de la révolution syrienne et qui est parue aux éditions L'Échappée en 2019. Et donc, cette interview est menée par Vivian Petit, qui a été notre invitée lors de deux émissions. Il faut concevoir cette interview de Leïla Alchami, suivie d'une interview des traducteurs et traductrices de Leïla Alchami comme un complément de l'émission sur la Syrie que nous avions faite avec Vivian Petit. Et donc, on vous souhaite une bonne écoute.
Donc, Leïla Alchami, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Là, on est à Notre-Dame-des-Landes, c'est juste après une présentation de ton livre que tu viens de faire. Donc, ton livre, c'est Burning Country, on a souvent parlé d'en sortir du capitalisme. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu développes dans ton livre à propos des causes au soulèvement, quoi? Tu dis souvent qu'il y a à la fois des explications politiques et aussi des racines économiques à ce soulèvement.
I think the uprising came within the context of this transnational revolutionary uprising that was taking place across the region, and I think the grievances of people across the region were very similar.
Je pense que l'insurrection syrienne doit être comprise dans le contexte du mouvement révolutionnaire transnational qui avait lieu à ce moment dans la région, et que les revendications des gens à travers la région étaient très similaires, contre les régimes autoritaires, la corruption, le manque d'opportunités, notamment en termes d'emploi pour les jeunes, pour lesquels il y avait un taux de chômage très important. En Syrie spécifiquement, il y a deux facteurs majeurs. Le premier était la répression politique, et le deuxième était la situation socio-économique. Pour ce qui est du premier facteur, la question de la répression politique, il faut se rappeler qu'Hafez al-Assad est arrivé au pouvoir 40 ans avant le soulèvement et avait mis en place un régime totalitaire et policier où toute forme d'opposition politique était brutalement réprimée. Les prisons étaient pleines d'opposants au régime, qu'il s'agisse de gens de gauche, de communistes, de libéraux, de membres des frères musulmans, mais aussi de Kurdes, de journalistes indépendants, puisqu'il n'y avait pas de journaux indépendants autorisés dans le pays. Donc, Hafez al-Assad a d'abord consolidé son pouvoir au sein du parti Baas, qui était vraiment au service de la famille Assad.
So that was the factor of political repression. When Bashar al-Assad inherited the dictatorship from his father in 2000,
quand Bachar al-Assad a hérité du pouvoir à la mort de son père en 2000, il y a d'abord eu l'espoir d'une ouverture politique. Bachar se faisait passer pour un modernisateur et il avait l'air plus ouvert politiquement que son père. Et à ce moment-là, il y a effectivement eu un mouvement dans lequel j'étais très impliqué, connu sous le nom de Printemps de Damas. Il ne s'agissait pas d'un mouvement populaire massif comme aujourd'hui, C'était un mouvement d'intellectuels, d'écrivains et de militants des droits humains. Ce mouvement appelait à un accroissement des libertés politiques, un système démocratique avec une pluralité de partis, la libération des prisonniers politiques, la fin de l'état d'urgence qui suspendait tous les droits démocratiques et donnait tout le pouvoir aux services de sécurité. Mais tout cela a été écrasé au bout de quelques années et tout espoir de réforme politique sous Bachar s'est envolé. Pour ce qui est de la situation économique, elle a empiré avec l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad. Sous Hafez, il y avait eu des améliorations, surtout pour la population rurale, avec une économie planifiée qui lui donnait une base populaire. Mais lorsque Bachar est arrivé au pouvoir en 2000, il a commencé à promulguer des réformes néolibérales, en coupant notamment les subventions aux produits de base comme le pétrole, des subventions qui étaient très importantes pour beaucoup de personnes. En même temps, il y avait un capitalisme de connivence dans lequel les richesses étaient concentrées dans les mains d'un petit nombre de loyalistes proches du pouvoir. La plupart, bien que ce ne soit pas la totalité, étaient d'ailleurs des membres de la famille Assad. Pour donner un exemple, à travers ces entreprises, Rami Makhlouf, le cousin de Bachar, possédait avant le soulèvement 60% de l'économie syrienne. Il y avait une corruption rampante et une augmentation de la pauvreté dans tout le pays. Les révoltes ont d'ailleurs éclaté dans les zones rurales défavorisées et dans les bidonvilles et les quartiers ouvriers qui s'agrandissaient au fur et à mesure que les gens des campagnes arrivaient pour y chercher du travail. Donc il y avait une claire dimension de classe au soulèvement révolutionnaire.
Donc tu insistais aussi, tu insistes souvent, sur le fait que c'était avant tout un soulèvement civil, un mouvement populaire. Ça s'est militarisé petit à petit parce que la population a dû s'armer face à la répression du régime. Mais c'est un mouvement qui a commencé par des très grandes manifestations. Et tu décris aussi une auto-organisation. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça, quelle forme ça prenait, cette auto-organisation, et par exemple décrire le fonctionnement des conseils locaux, et aussi est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont ça pouvait marcher en parallèle de l'existence des groupes armés qui résultaient de la nécessité de s'armer des manifestants face aux snipers, ou alors de la nécessité de se défendre pour des déserteurs de l'armée qui avaient refusé de participer à la répression du mouvement.
Unlike what happened in Egypt and Tunis, when the revolution began in Syria, it wasn't a revolutionary movement, it was a reform movement.
Contrairement à ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, au début, en Syrie, il ne s'agissait pas d'un mouvement révolutionnaire, mais d'un mouvement réformateur avec des revendications analogues à celles du printemps de Damas, libération des prisonniers politiques, multipartisme, etc. C'est l'expérience de la répression violente du mouvement de protestation, les arrestations de manifestants, les assassinats par balles, qui a entraîné une croissance et une radicalisation du mouvement. Quand cela a commencé, il y avait des petits groupes de militants qui se connaissaient et qui ont commencé à organiser ou à soutenir les manifestations, fabriquant des affiches ou des bannières, dressant des barricades pour protéger les gens des attaques du régime, faisant sortir régulièrement les gens dans les rues. Avec le début des manifestations, des gens ont compris qu'il y avait un besoin de coordination entre les différents mouvements et la nécessité d'unifier les demandes politiques et révolutionnaires. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui tentèrent de faire ça. De mon point de vue, la plus inspirante de ces tentatives est ce qu'on a appelé les comités de coordination locaux établis par une de mes amies. Elle commença à organiser le comité de coordination locale qui avait pour but d'unifier le mouvement et ses aspirations politiques et aussi dans le but de faire un travail d'information pour faire comprendre aux gens ce qui se passait en Syrie, non seulement pour donner à voir à l'étranger la répression massive du mouvement, mais aussi en interne pour diffuser des informations censurées par le régime.
that was one of the interesting kind of organizational.
Donc ça a été une des formes d'organisation intéressante qui s'est ensuite tournée davantage vers des activités humanitaires du fait de la répression, ce que beaucoup de personnes impliquées dans ces comités ont considéré comme une erreur, mais c'était inévitable du fait de l'importance de la crise. Ils ont commencé à distribuer des paniers alimentaires pour les zones assiégées, collecter des vêtements et de l'argent à envoyer aux gens pour qu'ils puissent survivre. J'aime particulièrement la forme d'organisation horizontale, multiconfessionnelle et avec pas mal de femmes dans ces comités. Un phénomène très intéressant lorsque des territoires furent libérés du régime suite à la militarisation, et que les gens ont dû s'organiser pour que leur communauté continue de fonctionner, notamment l'approvisionnement en eau, en électricité et en nourriture, l'école, les services de soins, et un de leurs modèles était celui des conseils locaux, un concept développé par l'anarchiste syrien Omar Aziz. Il pensait que ce n'était pas suffisant pour les gens de sortir dans la rue et de manifester, mais qu'ils devaient construire une alternative à l'État autoritaire. Ainsi, ces conseils locaux commencèrent à être mis en place dans des communautés à travers la Syrie, dans des villes, des villages et des quartiers. Il y en avait des centaines à leur pic en 2012-2013. Et nombre de ces conseils ont organisé des élections démocratiques, les premières depuis plus de 40 ans en Syrie. La plupart ont dû faire face à de nombreuses difficultés, certains étaient plutôt inclusifs et progressistes, et d'autres, surtout dans les régions rurales, étaient dominés par des tribus. Ce n'était donc pas parfait, mais tout ça a constitué un exemple qui n'a pas été visibilisé en Occident. En effet, on entend souvent que les Arabes ne sont pas faits pour la démocratie, il leur faut un homme fort pour s'arrêter de s'entretuer. Et pourtant, maintenant, on peut dire que dans des conditions de guerre totale, il y a eu en Syrie ces conseils locaux qui ont tenté de pratiquer une certaine forme de démocratie. Pour ce qui est de la militarisation, ça a été avant tout une réponse à la répression massive auquel les gens ont fait face. Lorsque les gens manifestaient, ils se faisaient tirer dessus par le régime, à tel point que le régime a utilisé des missiles intercontinentaux contre des zones résidentielles. Le régime a aussi mis en place des milices qui ont été envoyées dans des communautés insurgées pour violer des femmes et qui ont assassiné des femmes, des hommes et des enfants. Face à cela, les insurgés ont mis en place des unités d'autodéfense locales composées de jeunes hommes protégeant leur communauté, leur rue et leur famille des attaques du régime. Avec le temps, ils ont aussi commencé à se coordonner de manière vague sous la houlette de l'Armée syrienne libre, ASL. Je pense qu'il y a souvent une vision erronée de l'ASL comme une armée organisée et financée de manière centralisée, ce qu'elle n'était pas, même s'il y a eu des tentatives, finalement avortées, d'en faire une avec la mise en place d'un commandement centralisé en Turquie, commandement centralisé qui n'a pas eu d'influence sur la plupart des groupes armés. Quoi qu'il en soit, les gens qui se sont placés dans le sillage de l'ASL étaient des gens qui voulaient se débarrasser du régime et qu'il y ait une transition démocratique où les gens eux-mêmes pourraient choisir leurs propres représentants.
On voit vraiment en fait que ce soulèvement il a été extrêmement mal compris, notamment par la gauche en Occident. Et on voit aussi que, au fur et à mesure de la militarisation, de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est une grille de lecture plutôt antiterroriste et militaire qui a prévalu. Et ça s'est concrétisé de manière absolue à partir du développement de l'État islamique. Avec jusqu'à maintenant, de l'extrême gauche à l'extrême droite, quand même, un certain nombre de gens qui en sont à applaudir plus ou moins honteusement l'écrasement de l'insurrection syrienne. Et t'as écrit un texte qui s'appelle « L'anti-impérialisme des imbéciles », qui est traduit en français, notamment sur le site Solitude Intangible. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est l'anti-impérialisme des imbéciles ?
Well, I think the On the whole, the left's response to Syria was just a dismal failure.
Je pense que la réaction de la gauche à ce qui s'est passé en Syrie a été un échec lamentable. Pas de toute la gauche, il y a eu de nombreuses personnes et organisations qui ont exprimé leur solidarité avec les révolutionnaires. Mais de manière générale, la gauche a mal caractérisé et mal compris ce qu'il se passait. Une partie de cette réaction est liée à un logiciel politique obsolète, consistant à voir ce qui se passait en Syrie à l'aune de ce qui s'est passé en Irak en 2003, alors même que les conditions étaient très différentes. Il n'y avait pas eu de soulèvement populaire en Irak, les États-Unis sont allés imposer la démocratie aux gens, et ont fini non seulement par renverser un dictateur, ce que la plupart des gens ont probablement approuvé, mais par occuper le pays, entraînant une grave crise humanitaire et une montée du confessionnalisme et de l'extrémisme religieux, problème auquel l'Irak est toujours confronté aujourd'hui. Un autre facteur a été la lecture exclusivement géopolitique de ce qui se passait, vu uniquement comme un affrontement entre États, alors que lors des premières années du soulèvement en Syrie, le principal affrontement était entre un régime fasciste et une population rebelle qui tentait de résister à ce régime.
So this very state-centric analysis which led people actually to extend solidarity to states instead of extending solidarity to people that were resisting.
Cette analyse statocentrée a conduit des gens à être solidaires vis-à-vis d'un État plutôt que de soutenir la population. Ce cadre analytique dépassé, hérité de la guerre froide, avec l'idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, ou que le seul impérialisme existant est celui des États-Unis, nous devons nous y opposer et donc soutenir la Russie, sans se rendre compte qu'en faisant cela, on ne fait que choisir un camp dans un affrontement inter-impérialiste. La Russie n'est pas un régime anti-impérialiste, et ne l'a d'ailleurs jamais été, puisqu'elle occupe une partie importante de la Syrie et renforce une dictature fasciste.
Branded about very regularly on the left, all opposition to the Assad regime are jihadists.
Il y a aussi eu un discours raciste dépeignant les opposants au régime d'Assad comme des djihadistes, utilisant un discours islamophobe répugnant pour dénigrer les Syriens dans leur résistance à l'autoritarisme, sans voir que la révolte en Syrie, depuis des années, n'est pas uniquement contre le régime, mais aussi contre les groupes islamistes extrémistes, et pas seulement contre Daesh, mais aussi contre des groupes comme Ansar al-Sham ou Jaïch al-Islam, qui officiellement faisaient partie de la lutte anti-Assad, contrairement à Daesh, et qui ont pourtant fait face à une forte opposition locale. La militarisation a en effet conduit à une islamisation pour un certain nombre de raisons, jusqu'au point où les islamistes ont dominé l'opposition militaire au régime. Mais rappelons-le, l'opposition civile est toujours restée majoritairement démocratique, inclusive, et anti-islamiste. Et pour finir, on va maintenant écouter l'interview de Vivian Petit avec deux membres du collectif de traduction de Burning Country.
On est avec Benjamin et Maïté. Vous êtes deux des traducteurs de Burning Country, de Robin Yassine Kassab et Leila Hachami. Ça nous paraissait intéressant de vous demander comment vous était venue cette idée de traduire ce livre et de rendre accessible au lectorat français un bouquin qui explique assez précisément ce qu'a été l'insurrection syrienne et la situation en Syrie jusqu'à maintenant.
En fait, c'est un peu au croisement de différentes rencontres. En fait, les 5 ou 6 personnes qui ont participé aux différents stades de la traduction du livre se sont rencontrées à différents moments et ont des histoires un peu singulières avec l'histoire de la Syrie. Pour quelques-uns d'entre nous, c'est notamment pour avoir suivi ce qui, d'aussi près qu'on pouvait, ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée à partir de 2011 et essayer de comprendre ce qui s'y jouait. Avoir eu aussi certains amis qui ont pu aller soit en Tunisie, soit en Égypte, soit même en Libye pour se rendre compte de ce qui se passait sur place et essayer d'amener une forme de compréhension depuis le terrain de ce qui se passait. Et il nous a semblé assez vite que ce qui se passait en Syrie était d'une importance qui dépassait largement les frontières de l'État syrien et qui allait avoir des répercussions pour des années ailleurs, que tout le scénario contre-insurrectionnel qui se déroulait là-bas avait été édifiant à plus d'un titre et toute l'expérience du mouvement révolutionnaire et du soulèvement populaire avait été particulièrement absent de tous les récits qui étaient faits, à la fois dans les médias dominants et dans les milieux révolutionnaires ou de gauche qui pouvaient se pencher sur la question. Et donc, il y a eu pour certains cette entrée-là, vraiment dans la suite des soulèvements arabes et de ce que ça a pu éveiller comme espoir, y compris ici. Et pour d'autres, une entrée plus par ce qui a pu susciter comme espoir à un moment l'expérience du Rojava et ce qui apparaissait comme étant une troisième voie dans le conflit syrien et qui du coup a amené un certain nombre d'autres personnes à s'intéresser à ce qui se passait en Syrie par ce biais-là et puis de comprendre que c'était pas forcément aussi simple que à la fois la propagande du PKK montrait mais aussi les médias occidentaux voulaient bien montrer la situation et donc essayer de creuser ces questions-là. Et puis ensuite, ce qui a vraiment déterminé le fait qu'on se mette à faire ça, c'est et la rencontre avec des exilés syriens et leur récit vivant de ce qui s'était passé pour eux dans les premières années du soulèvement et la rencontre avec ce livre dans sa version anglaise.
Est-ce que vous pensez que dans la manière de se relier à cette question-là ou dans la manière de la connaître, il y a des choses qui peuvent nous inspirer ou nous donner des enseignements, même si on vit dans des contextes extrêmement différents?
Bah, moi, je trouve que toutes les stratégies contre-insurrectionnelles qui ont été menées par Bachar al-Assad dès le début du soulèvement, que ce soit la manière de... Enfin, la propagande entre... Enfin, directement, c'est des agents occultes, des étrangers qui viennent semer le chaos. Toutes les propagandes médiatiques, c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment dans toutes les gestions, enfin, dans tous les matages de révolte, que ce soit... Et ça allait même jusqu'aux gilets jaunes... Tu fais la différence entre le vrai et le faux. Et que, je sais pas, il y a pas mal de stratégies du régime d'Assad qui se réappliquent un peu partout. Et je pense que c'est assez important, même quand on regarde l'Irak ou le Liban, qui est bon, bah, c'est génial, c'est multiconfessionnel et tout ça. Mais en même temps, c'était comme ça aussi la Syrie. Du coup, comment est-ce que c'est une histoire qui fait aussi des mises en garde, de savoir qu'après... Il n'y a pas de solution non plus. Hein, mais...
ouais, un des trucs qui paraissait important dans le livre, c'était à la fois que ça donnait une voix vraiment à... Enfin, différentes voix, justement, depuis le soulèvement lui-même, depuis le terrain, ce qui était quasiment inexistant dans ce qui paraissait en français à ce moment-là, à part quelques travaux universitaires un peu touffus. Il y avait vraiment un choix délibéré dans le livre de donner d'abord la voix au terrain et aux gens qui participaient au soulèvement. Et ça nous paraissait... pas existé dans ce qu'on avait pu lire jusque-là. C'est la manière dont ces récits-là sont lancés, ça enlevait tout le caractère exotique à la situation qu'ils pouvaient avoir jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, soit en lisant les journaux ou en regardant la télévision ou même en suivant sur Internet, on avait toujours le sentiment quand même d'une situation très éloignée avec des images qui permettaient pas forcément de se rapporter à la situation. Ou en tout cas, on s'y rapportait comme quelque chose d'essentiellement étranger, avec très vite ces images les cris à la Wakbar, cette espèce d'orientalisme sur la situation. Et dès qu'on rencontrait des gens, des exilés syriens, ou qu'on lisait ces récits-là, d'un coup, il n'y avait plus du tout cette distance et plus cet exotisme-là. En fait, on voyait bien que les gens ils se posaient les mêmes questions qu'on se poserait dans des situations similaires ou approchantes, qu'au fond, ce qui les motivait, c'était des choses qui nous étaient pas du tout étrangères, et que l'expérience qu'ils vivaient, elle nous parlait au premier chef, en fait, pas comme quelque chose où on aurait une espèce d'intérêt intellectuel ou culturel pour ce qui se passe au Moyen-Orient, mais dans le sens que, voilà, il y a des gens qui se sont levés contre un état de fait, contre un régime, et qui ont dû trouver tout un tas de moyens pour... pas venir à leur fin et à réussir à tenir face à des méthodes de contre-insurrection inégalées depuis très longtemps. Donc vraiment, cette découverte, moi, mon choc, ça a été la rencontre avec les Syriens, et me rend compte qu'en fait, entre eux et moi, finalement, la différence, il n'y a pas la distance que je pouvais imaginer qu'il y aurait, quoi. Qu'il y avait vraiment quelque chose de commun, quoi. Par-delà la différence des situations qui est indéniable.
Et en guise de conclusion, les dernières lignes de Burning Country dans son édition française. La révolution syrienne est souvent qualifiée de révolution orpheline. N'ayant bénéficié d'aucun soutien, ignorée, incomprise et calomniée, elle a dû s'opposer seule aux forces combinées de la réaction locale, régionale et internationale. Son avenir et celui du monde arabe au sens large restent profondément incertains. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il ne peut y avoir de retour au statu quo d'avant 2011. Spectre.